Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouveau podcast draft. En plus, aujourd'hui, une position hyper importante, celle de cornerback. Voilà, la NFL, c'est une ligue de plus en plus aérienne, donc forcément, il faut défendre tous ses quarterbacks, il faut défendre tous ses receveurs, et pour cela, il faut de très bons cornerbacks. Ben écoutez, ça tombe bien, on a une QV 2024 de la draft qui nous propose beaucoup de profils très intéressants. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Antoine Ajavon. Salut Tonio, tu vas bien ?
Ouais, ça va très bien, et toi Jean-Mi ?
Ben ouais, impeccable, nickel, tout va bien, on parle de draft, donc on est à fond, c'est trop bien. Allez, on perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les cornerbacks, celui qui pourrait être le numéro 1, hein, on sait pas, de toute façon, les franchises, elles ont peut-être des préférences, mais il y en a un qui quand même se détache, enfin deux on va dire. On a fait un tiers 1 avec 3 joueurs, et suivant les préférences des franchises, l'un ou l'autre pourrait partir en premier. On va commencer avec celui qui est pour moi mon préféré, il s'appelle Quinion Mitchell, et il jouait à Toledo. Quinion Mitchell, moi je trouve qu'il a tout. C'est-à-dire qu'il a un bon gabarit, il a les qualités athlétiques, il a l'intelligence de jeu, il a de la vitesse. Il a été très bon à l'université, très très grosse production, beaucoup de passes défendues, des interceptions, veux-tu, en voilà. Mais il venait de Toledo, voilà, donc il a affronté forcément des adversaires un petit peu moindres. Donc il arrive au Senior Bowl, tout le monde l'attend un petit peu. Parce qu'au Senior Bowl, ça réunit la crème de la crème. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a été très bon. Après le Senior Bowl, autre événement important, c'est la NFL Combine. Il arrive et là, il s'impose. Voilà, il tape un sprint supersonique sur le 40 yards. Il fait 20 développés couchés. Il est très bon dans tous les ateliers spécifiques, le back pedal, etc. Là aussi, il a encore ébloui tous les regards des scouts NFL. Alors Quinion Mitchell, il est un petit peu plus habitué en zone, mais il a quand même la puissance pour jouer en presse si besoin à NFL, c'est-à-dire vraiment la couverture homme à homme, un petit peu plus physique, il pourra le faire. On l'a vu dans sa qualité de plaquage, on l'a vu avec sa puissance. Pour moi, Quinion Mitchell, il a tout et il pourrait être le numéro 1 des cornerbacks. Qu'est-ce que tu en penses, Tonio ?
Ben, je pense que tu as très bien souligné, et ce qui ressort en particulier chez ce joueur, c'est d'abord et avant tout ses qualités athlétiques. Tu l'as dit, il a tout explosé au combine, mais même avant le combine, on l'a vu sur ses vidéos. Alors, moi, je t'avoue, personnellement, je n'ai pas regardé de match de Toledo cette saison, mais en le scoutant, en le regardant d'un peu plus près, c'est vrai qu'il a des qualités athlétiques assez hors normes. Et ce qu'on demande à ces joueurs de mid-major, de programmes qui ne sont pas parmi la crème de la crème, pour reprendre ton expression, dans le championnat universitaire, ben, c'est d'avoir la production qui justifie le statut. C'est-à-dire, si tu joues à un niveau un peu moins élevé que tes concurrents directs pour être le meilleur corner de ta QV, il faut que t'aies la production, que t'aies les chiffres, les statistiques qui disent que voilà, tu fais partie de cette classe-là. Et effectivement, ben, Mitchell, il a tout, quoi. On peut revenir sur le niveau des adversaires qu'il a rencontrés, mais face à ses adversaires, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Record de passes défendues sur une saison et en carrière dans l'histoire de son université. Zéro touchdown concédé la saison passée. Il est très doué, ce que j'ai remarqué aussi, pour localiser le ballon dans les airs et finir les jeux. C'est vraiment ce qu'on appelle un playmaker. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais tous nos auditeurs savent à quoi je fais référence. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait des jeux, qui finit des actions. Il n'y aura jamais trop de laisser-aller dans son jeu. Alors encore une fois, à nuancer par rapport à la qualité des adversaires qu'il a eu à affronter cette saison, on va voir ce que ça va donner en NFL. Mais encore une fois, tout ce qu'on lui a demandé de faire à son niveau, il l'a réalisé. C'est un excellent plaqueur aussi, ce qui est assez rare pour être souligné à ce poste-là. Il arrive à passer des courses à reculons, aux courses vers l'avant, en une fraction de seconde, encore une fois, grâce à ses qualités athlétiques. Ouais, non, franchement, il y a très peu de défauts. Moi j'aime, c'est vraiment un joueur qui est plaisant à voir jouer. Et j'imagine un joueur qui est plaisant à entraîner aussi, parce qu'il a un style voilà, assez physique, assez agressif. Peut-être le seul petit bémol que je trouve, c'est t'as parlé de la zone dans laquelle il a joué majoritairement cette saison, et même les saisons passées, c'est qu'il laisse parfois un peu trop les adversaires repiquer vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il se repose un peu trop sur ses qualités athlétiques en disant « de toute façon, je vais le rattraper ». Et parfois, il s'est fait mordre là-dessus. Alors, au niveau universitaire, ça peut aller encore. En NFL, il faudra corriger ce petit défaut pour ne pas concéder de trop gros jeux. Mais en dehors de ça, franchement, c'est assez propre comme profil. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit cornerback numéro 1 et puis choix du top 10 de la draft ?
Alors, cornerback numéro 1, ça ne m'étonnerait pas. On va voir avec les profils dont on va parler juste après. Moi, j'en ai un que je préfère un tout petit peu et ça va peut-être être sujet à controverse. Mais en tout cas, si c'est le premier cornerback pris et sélectionné dans le top 10, il n'y aura aucun scandale et certainement pas de ma part. Quoi.
D'accord, ok. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment deux candidats qui se détachent. Écoute, de ce deuxième candidat, on va en parler en troisième position. Parce que là, tu vas nous parler d'un joueur qui est très intéressant également. Il s'appelle Cooper DeJean et il nous vient de l'université d'Iowa.
Ouais, alors ceux qui se souviennent, les plus fidèles auditeurs de Touchdown Actu, déjà qu'on a enregistré la saison passée pour la draft, ils savent que j'ai une fascination avec le programme d'Iowa. C'est une équipe qui m'intéresse à chaque fois, parce qu'elle a la plus mauvaise attaque ou une des plus mauvaises attaques du championnat universitaire, et défensivement, c'est toujours archi solide. Et c'est des profils qu'on retrouve quasiment année après année avec ce programme. Et Cooper DeJean, il correspond à cette règle, c'est-à-dire que c'est un athlète de très haut niveau. Il a un morphotype qui est quand même assez massif, qui tranche avec les autres profils dont on va parler dans ce podcast. C'est vraiment un athlète aussi racé, hein, presque comme Quinion Mitchell, mais même un peu au-delà, je dirais. C'est un ancien joueur de basket, ancien joueur de baseball. Au lycée, il jouait quarterback. Et pour moi, c'est le QI football le plus élevé au poste de cette draft. Et quand on allie les deux, l'intelligence de jeu et ses qualités physiques qui sont quand même assez hors normes, je ne serais pas surpris qu'il soit sélectionné au premier tour, voire le top 20. Quoi. Il a vraiment une capacité assez exceptionnelle à anticiper les tracés. Il est toujours en bonne position. Alors, il n'est peut-être pas aussi doué que Mitchell pour jouer le ballon, pour aller chercher des interceptions, mais il n'est pas très très loin derrière, pardon. Il n'a jamais concédé une seule passe de plus de 15 yards encore la saison passée. Enfin, on peut faire toute une liste de statistiques. Vraiment, il était excellent dans cette défense qui a été excellente et qui a porté à elle seule cette équipe d'Iowa. Alors attention, il a un style de jeu qui est très agressif, qui est très physique, notamment sur la ligne de scrimmage. Ce qui fait qu'il n'aura aucun souci par rapport au receveur plus costaud de la NFL. Mais il peut avoir tendance à concéder quelques fautes. À l'université, il jouissait d'un pedigree assez important parce qu'on commençait à le connaître. En NFL, le petit rookie, on va pas lui faire de cadeau. Donc, s'il commence un peu à attraper le maillot, à être un peu trop gourmand, un peu trop puissant sur ses blocs, il va se faire pénaliser et ça va faire très mal. Mais en dehors de ça, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il manque peut-être de fluidité, de vitesse latérale aussi. Mais en termes de puissance, de taille, de gabarit, il est vraiment très costaud pour le poste et c'est un profil que j'aime beaucoup.
Oui, c'est ça. Et puis, il propose aussi pas mal de polyvalence. D'ailleurs, à Iowa, il a joué à pas mal de positions. Bon, il a, en 2023, il a surtout joué cornerback extérieur et un petit peu dans la boîte aussi, tel un strong safety. Il propose cette polyvalence-là qui est très intéressante. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur du terrain, je suis d'accord avec toi, il manque peut-être un tout petit peu de fluidité latérale. Donc, marquer des receveurs rapides qui jouent dans le slot, c'est peut-être un peu plus compliqué. Par contre, à l'intérieur, il pourra tout à fait marquer un tight end parce que, voilà, il a vraiment cette capacité-là. Il a le gabarit, la puissance, les qualités athlétiques. Il pourra également jouer dans cette zone. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient régulièrement avec Cooper DeJean, c'est est-ce qu'en NFL, ce sera un cornerback extérieur ou est-ce que c'est plutôt un cornerback intérieur, mi-safety, mi-nickel cornerback ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors là, pour le coup, tous ceux qui veulent le transformer en safety, je vais un peu me fâcher avec eux parce que je pense vraiment qu'il a les qualités pour jouer corner en NFL. Alors encore une fois, avec les défauts qu'on a soulignés, mais bon, on en a vu des très bons corners qui manquent un peu de fluidité. Et surtout en NFL aujourd'hui, les receveurs sont très costauds, sont de plus en plus grands. Il y a beaucoup de tight end qu'on implique dans le jeu de passe de plus en plus. Donc là, il aura vraiment toute sa place. ne le transformez pas en safety, s'il vous plaît. Alors, évidemment, sur quelques actions ici et là, pourquoi pas, mais il a vraiment des qualités pour jouer cornerback. Il a la vitesse. C'est vrai qu'il a un peu tendance parfois à perdre le ballon dans les airs sur les passes en profondeur. Mais bon, voilà, ça, c'est des petites choses qui peuvent se corriger. C'est pas le profil parfait, mais c'est un profil qui, avec un peu de développement, je serais pas étonné vraiment que dans 3 ou 4 ans, on en parle comme un des top 10, top 12 à son poste dans la Ligue.
Oui, c'est vrai, il présente énormément de qualités. D'ailleurs, sur ce journal d'actu, on a déjà parlé dans un podcast pendant la saison. Il y a déjà une fiche draft qui a été publiée. Voilà, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, effectivement. De toute façon, c'est un defensive back. Moi, je pense aussi qu'il restera cornerback en NFL. Mais après, voilà, c'est intéressant toute cette polyvalence qu'il propose, ne serait-ce que sur certains jeux avec des coordinateurs défensifs agressifs. Vraiment, c'est quelqu'un dont vous entendrez parler le dimanche en NFL l'année prochaine. Cooper DeJean qui nous vient de Iowa. Maintenant, Antonio, on va parler, on l'évoquait tout à l'heure, Yakunion Mitchell numéro 1, ou alors un autre, l'autre, c'est Terrion Arnold qui nous vient de Alabama. Alors, Terrion Arnold, c'est un petit peu, je trouve, le prototype du shutdown corner. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de taille, il est fluide de mouvement. Il joue à Alabama où il a fait une très belle saison en 2023, 12 passes défendues, dont 5 interceptions. Formé à Alabama, ça veut dire aussi qu'il est habitué à toutes les tactiques. Voilà, il a joué en zone, il a joué en homme à homme, il a joué plus ou moins en presse, il a joué cornerback extérieur, mais également un petit peu dans le slot. Alors, ça sera un cornerback extérieur, c'est pas ce que je veux dire, mais cette petite expérience dans le slot ajoute également à son profil, c'est de toute façon un atout pour la draft. Et puis, en plus de ça, Terrion Arnold, il a que 21 ans. Voilà, il les a eu là en mars, il a que 21 ans, donc quand on voit ce qu'il est déjà capable de faire à 21 ans, il a une grande marge de progression. Alors ok, c'est peut-être pas le plus rapide, il n'est pas aussi bon plaqueur non plus que Quinion Mitchell, mais c'est vrai qu'il y a débat, il y a match entre Terrion Arnold et Quinion Mitchell pour être le cornerback numéro 1 choisi lors de cette draft.
Ouais, tout à fait, et pour moi c'est le profil quasi parfait. Alors pourquoi ? Parce que il est plaisant lui aussi à avoir joué, et je vais trancher un peu avec les avis que j'ai mis lors de précédents podcasts. Moi, les joueurs que j'adore, c'est souvent les profils puissants qui sont durs au mal, qui vont cogner. Arnold, c'est pas du tout le cas. Lui, c'est vraiment, c'est presque, j'ai envie de dire, un scientifique du poste, quoi. Il y a pas beaucoup d'agressivité dans son jeu, mais qu'est-ce que c'est fluide. Tout est fluide dans ses mouvements, tout paraît naturel, il donne jamais l'impression de forcer. Son jeu de jambes a montré dans toutes les écoles de corner, que ce soit reculons ou la transition pour aller tout de suite vers l'avant, ça se fait d'une facilité mais assez déconcertante, et surtout avec une vitesse d'exécution qui pourrait dire, si tu le fais aussi vite, peut-être que tu vas te tromper, tu vas être un peu brouillon. Non, chez lui, pas du tout. Tout est propre. Techniquement, c'est très, très propre. Les changements de direction avec les receveurs un peu plus petits, un peu plus vifs, ça ne lui pose aucun problème. Tu as parlé du slot. Encore une fois, je suis ton avis, je ne suis pas certain qu'on lui demande ça en NFL. Mais sur une action, pareil, avec parcimonie, je pense que ça ne lui posera pas de problème. Être defensive back à Alabama sous Nick Saban, en général, ça place un bonhomme. Et Terrion Arnold, voilà, c'est vraiment un très, très beau profil, un technicien, un scientifique, utilisez la métaphore que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment très propre, très beau à voir jouer. Il y a une certaine élégance dans son jeu. Le point faible sur lequel il va devoir travailler, et c'est ma rengaine avec beaucoup de corners aujourd'hui en NFL, c'est les plaquages. Il faut qu'il soit plus volontaire, j'ai envie de dire, dans les plaquages. Parfois, il laisse un peu ses receveurs gagner des yards après réception. Ouais, ça, faut corriger vraiment pour être au top du top. Mais quel joueur ? Quel joueur ? Et on en parlait avec Mitchell, je ne serais pas étonné non plus que Arnold soit pris dans le top 10, top 15, et peut-être même avant Mitchell, c'est vraiment selon les goûts. Et voilà, c'est vraiment un très, très beau profil.
Oui, c'est ça, exactement. Comme je le disais, il plaque un peu moins bien que Mitchell. Il a peut-être un peu moins de puissance et puis moins de technique à ce niveau-là. Mais voilà, quand tu le vois jouer, comme tu disais, techniquement, c'est pas parfait. Évidemment, ça sera qu'un rookie, mais c'est le prototype du shutdown corner. Tu le vois évoluer avec sa fluidité de mouvement, son intelligence de jeu. Le cornerback numéro 1 en NFL, il tiendra ce poste à terme. De toute façon, peut-être pas sa saison rookie, mais à terme, ça sera un cornerback numéro 1. Et il a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, je pense que Mitchell et Tyrone Arnold, voilà, il c'est un A et un B, et puis les deux, ils vont être pris dans le top 10, top 15 à minima, si les franchises vont sur d'autres besoins, mais voilà, ce sont vraiment deux super joueurs. Et Cooper DeJean, peut-être juste un petit peu en dessous, mais quand même, quel joueur également. Donc voilà, on vous a parlé de notre tier 1, avec ces trois joueurs, Quinnen Mitchell de Toledo, Cooper DeJean de Iowa, et puis donc Tyrone Arnold de Alabama. On va passer à notre tier 2 où on a placé 3 joueurs. Et tu vas commencer, Tonio, tu vas nous parler d'un super joueur que j'aime beaucoup. Lui aussi, il s'appelle Nate Wiggins et il nous vient de Clemson.
Ouais, et Nate Wiggins, il n'y en a pas deux comme lui. Il est vraiment assez unique comme joueur et d'abord par son gabarit. Il est très grand, enfin très grand pour le poste, 1m88. Et surtout, il est très longiligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de muscles sur son corps. Enfin, en tout cas, à la télévision, hein, qu'on s'entende bien, et relatif à d'autres joueurs de football américain. Mais voilà, mais il a vraiment des qualités athlétiques, là aussi, qui sortent de la moyenne, qui sortent du lot. Malgré sa taille, il est très soudain dans ses mouvements. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment notable quand on le voit. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'un joueur aussi grand, aussi fin, aussi mince, soit aussi vif et une aussi grande capacité d'accélération, que ce soit pour se retourner, pour changer de direction, la vitesse latérale, pour passer des courses pareilles à reculons aux courses vers l'avant. Tout est fait avec une soudaineté, avec une vitesse d'exécution qui est vraiment, vraiment impressionnante. Il est en phase avec son corps, il est tout en contrôle, et puis même la vitesse de pointe, j'aurais presque dû commencer par là, 4,28 aux 40 yards. Les receveurs qui pourront lui tenir la dragée haute en NFL, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et on les connaît, hein, c'est les Tyreek Hill, etc. quoi. C'est un athlète exceptionnel. Pour coller au basque des receveurs, il n'y aura aucun problème. Son jeu de jambes n'est pas parfait comme un Arnold, mais bon, il est tout à fait correct. Et là aussi, c'est assez étonnant vu sa taille. Quand on se dit un mec d'1m90 au poste de corner, peut-être que ce ne sera pas propre techniquement, mais là, quand même, ça reste assez propre. Malgré sa vitesse, par contre, il a la fâcheuse tendance à attraper le maillot de ses adversaires. Ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, à taper dans le bras. Ça, en NFL, ça ne pardonnera pas. Les arbitres sont très tatillons là-dessus. Et c'est des pénalités qui pourront vite monter à la tête de ses entraîneurs. Donc, attention à ce point-là. Gros point faible également contre la course. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on demande en priorité à un cornerback, mais je le vois très réticent, très très réticent à aller au plaquage. Il n'est pas vraiment... Mais c'est l'opposé de Cooper DeJean, quoi. Il n'est pas vraiment dur au mal, il n'a pas vraiment cette volonté d'abord de se dégager des blocs et ensuite d'aller faire mal au plaquage. 16% de plaquage raté au niveau universitaire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et le football, par essence, ça reste un sport violent et il faut parfois avoir envie de se faire mal, aller au mastic. Et je ne sais pas, c'est vraiment une question que je pose, est-ce qu'il a la mentalité pour justement aller au mastic et aller se faire mal? Si oui, avec ses capacités athlétiques, je pense qu'on parle d'une future star en NFL. Sinon, si vraiment ça pêche à ce niveau-là, au niveau psychologique, au niveau mental, d'aller au combat, ce sera un joueur incroyablement frustrant et pour ses entraîneurs et pour les fans de sa future équipe.
Oui, c'est ça, ouais, exactement. Mais déjà, il manque un peu de gabarit. Voilà, comme tu l'as dit, tu as commencé par ça. Il est très grand, il est longiligne et il manque un petit peu de masse musculaire, de puissance. C'est peut-être ça qui ne lui donne pas suffisamment de confiance pour aller au contact. Même si, a priori, je pense comme toi que c'est sans doute un problème mental. Mais en NFL, il n'aura pas le choix. Après, voilà, tu l'as dit aussi, on ne lui demandera pas cela en priorité. En priorité, il devra marquer un receveur et ça, il sait très bien le faire. Tu parlais du sprint aux 40 yards où il a fait un 4,28, le meilleur temps de tous les cornerbacks, c'est un temps supersonique. Mais on l'a vu également sur le terrain. Voilà, c'est pas juste être en short et faire un sprint en ligne droite au combine, c'est, on l'a vu. Je me rappelle plus quel était ce match, mais où il y a un receveur qui part tout seul, vraiment le ballon en main, il va marquer, puis tu vois Nate Wiggins qui revient derrière, qui revient, et à 1 yard de la ligne, tac, il lui arrache le ballon, et puis il n'y a pas eu touchdown. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui a de l'intelligence de jeu, c'est vraiment le prototype lui aussi du cornerback. Il y manque, voilà, un petit peu de méchanceté, un peu d'agressivité, mais quand même, il a tous les attributs, et je ne vois pas un monde où il sort du premier tour.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus sur la projection, parce que vu ses capacités athlétiques, il y a forcément une équipe qui va prendre le pari et se dire bah allez, ce qui lui manque niveau mentalité, niveau agressivité, on va lui inculquer et puis on va en faire un très grand dans cette ligue. Enfin, en tout cas, c'est toujours la mentalité des scouts et des general managers. Donc oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas trop de doute pour qu'il échappe au premier tour, quoi.
Ok, dans notre tier 2, on va parler d'un autre joueur qui physiquement présente un petit peu des similitudes avec Nate Wiggins, c'est-à-dire qu'il est plutôt grand, mais il manque également deux gabarits, il s'appelle Enis Rakestro et lui, il nous vient de l'université de Missouri. Donc je viens de le dire, il est grand, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur, c'est un pot de colle des receveurs. Voilà, il a les qualités athlétiques, l'intelligence de jeu, il arrive très bien à suivre tous ses receveurs. Alors, contrairement à Wiggins, je trouve qu'il joue plus physique. Voilà, malgré son manque de puissance, de gabarit, il faudra qu'il prenne de la masse, mais ça, ils ont la recette à NFL. Mais quand même, il a un jeu physique, y compris contre la course. Lui, on voit qu'il est beaucoup plus volontaire. En plus, à Missouri, il a eu de l'expérience pour jouer dans tout type de système, en zone, en homme à homme, etc. Alors, c'est pas le plus rapide, il manque un peu de gabarit, mais franchement, Enis Rakestro, je trouve que pour sa saison rookie, ça peut pas être un cornerback numéro 1, mais si tu as déjà un numéro 1 et que tu as besoin d'un jeune joueur talentueux à mettre en numéro 2 pour être ensuite un numéro 1 à l'avenir, il coche quand même beaucoup de cases. Et lui, je pense qu'à partir du choix 20-25 jusqu'à la fin du premier tour, il est en jeu. Enis Rakestro de Missouri.
Ouais, il a de grosses aptitudes en individuel, en presse. Il est très physique au contact, il arrive j'ai envie de dire presque à étouffer un peu les tracés courts et intermédiaires. Il est assez équilibré dans ses courses. Moi, les difficultés que j'ai notées, c'est sur les tracés en profondeur contre des receveurs un peu plus rapides. Comme tu l'as dit, il manque un chouïa de vitesse. Et là, malgré sa bonne fluidité dans les transitions, il arrive à se retourner assez facilement. Son manque de vitesse de pointe fait que ça pêche un peu. Alors ça, c'est l'opposé de Nate Wiggins. Il aura un peu de mal contre les flèches de la ligue. Mais pour tout ce qui est tracé court, tracé intermédiaire, ouais, c'est vraiment un profil qui est très attrayant. Il joue avec vraiment pas mal de puissance, pas mal de physique. Attention à son historique de blessures. Il a eu pas mal de blessures déjà au niveau universitaire. Alors encore une fois, ça c'est jamais la faute des joueurs. Il n'y a aucun joueur qui souhaite être blessé. Mais malheureusement, c'est des choses que les general managers ont tendance à noter. Et parfois sont un peu réticents quand il s'agit de sélectionner des joueurs qui ont un peu trop de blessures dans leur historique. Donc voilà, c'est ça le point faible. Donc les tracés longs, l'historique de blessures en dehors de ça, ouais, c'est un joueur qui est correct, quoi, qui est très bon. Pareil, deuxième tour, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ce qui me gêne un peu aussi, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous les matchs de Missouri cette saison, je crois que j'en ai vu deux, mais de ceux que j'ai vus et des vidéos que j'ai vues après, il n'arrive pas vraiment à mettre ses mains, il n'arrive pas vraiment à jouer les ballons contestés. Il n'a pas vraiment cette faculté à aller chercher les ballons pour les interceptions. C'est un peu dommage parce que, voilà, à l'opposé d'un Quinion Mitchell, par exemple, ce n'est pas un playmaker, quoi. Il a du mal un peu à finir ses jeux. Je ne sais pas si ça peut se corriger au plus haut niveau ou si ça restera vraiment un cornerback de contact, de presse en homme à homme. Mais voilà, ça reste un profil très très intéressant.
Ouais, il a peut-être un petit peu de mal à s'imposer physiquement, mais justement, il manque un petit peu de gabarit, donc je pense que voilà, avec une bonne préparation en NFL, peut-être que voilà, il va prendre un peu plus de muscle, il pourra peut-être s'imposer un petit peu plus. Mais oui, un joueur très intéressant. Donc c'était notre deuxième joueur du tier 2, on va passer à notre troisième joueur. C'est un joueur qu'on attend depuis sa première saison universitaire, déjà parce qu'il a un surnom, il s'appelle Cool Head, alors c'est un surnom, hein, son prénom c'est Guakinstri, c'est un surnom qu'on lui a donné quand il était petit, etc. Mais donc Cool Head, McKinstry, on l'attendait avec Alabama. Comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, on avait un peu plus vu Terrion Arnold, son coéquipier, mais Cool Head McKinstry, ça reste quand même un sacré joueur qui propose un très beau profil.
Ouais, tout à fait. Et tu l'as dit, on l'attendait dès sa saison freshman. Pourquoi? Parce qu'il est titulaire à Alabama depuis sa saison freshman. Être titulaire freshman en tant que defensive back à Alabama, là, pareil, je ne sais pas combien il en a eu exactement. Je me rappelle de Fitzpatrick, dont tout le monde a dressé les louanges dès ses premiers pas à l'université. McKinstry, c'est à peu près le même profil en termes d'intelligence. Il a un QI football aussi qui est comparable à Cooper Dejean, quoi, qui est vraiment très très élevé. Contrairement à Wiggins, lui, il manque cette fluidité athlétique. Il n'a pas vraiment cette soudaineté dans les mouvements. Mais en dehors de ça, tout le reste, est très propre. Il a une excellente envergure, de très longs bras. Il est puissant. Il a des mains qui sont particulièrement violentes pour gêner les receveurs sur la ligne de scrimmage. Il y a vraiment une dimension presque autoritaire dans son jeu. À la limite de la faute, mais jamais sans franchir la ligne rouge. Il arrive, il se pose. Alors, c'est un peu ridicule ce que je vais te dire là, mais il se pose comme un bonhomme, quoi. Quand Kool-Aid est en face de toi, tu sais que bah, tu vas devoir suer un peu pour te libérer et gagner quelques yards de séparation. Il arrive à anticiper les jeux, beaucoup de tracés qu'il identifie avant même que le ballon soit arrivé à destination. C'est un excellent plaqueur, il est à l'aise contre la course. Niveau mentalité, je ne l'ai jamais vu abandonner une action. Il va toujours au bout. Même quand il se fait battre, il se bat mais comme un beau diable pour rattraper ses bévues. Polyvalent, il est bon en zone, il est bon en individuel, même s'il est meilleur en individuel à mon goût. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce mec, quoi. C'est, à part vraiment cette fluidité athlétique qui manque, tout le reste est vraiment presque nickel chrome, quoi. C'est un joueur qui sort d'Alabama, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est préparé pour la NFL, c'est un prototype qui est là, qui sera, à mon avis, prêt dès le premier jour, quoi.
Ouais, quand on le regarde jouer, ben, on voit un cornerback NFL, voilà, tout simplement. Comme tu dis, cette agressivité dès que le ballon est engagé, l'intelligence de jeu, le physique, il a tout, sauf peut-être un peu cette pointe de vitesse. Et puis voilà, tu disais qu'il franchit rarement la limite. Malheureusement, moi je trouve que parfois il a franchi un petit peu trop la limite physique. Et puis il prend des flags, on l'a déjà vu aussi prendre des flags à l'opposé du ballon. Il fait une faute bête, il s'énerve avec son receveur, des choses comme ça. Il va falloir qu'il se discipline un tout petit peu plus. Mais il propose quand même un très très gros profil. Et je pense que bon, même en fin de premier tour, il peut être en jeu. Mais sinon, ça serait un solide choix au deuxième tour, aller entre le 33 et le 50, parce que vraiment, il propose ce profil. Voilà, tu le vois jouer, tu vois déjà un cornerback NFL, donc a priori, il y a assez peu de doutes sur sa réussite. Alors, réussite, on ne dit pas qu'il va devenir All-Pro, mais en tout cas, devenir titulaire à NFL, ça, moi, j'en doute assez peu.
Ouais, on parle toujours de plancher et plafond. Lui, le plancher est très élevé, quoi. Il a déjà une base très, très solide sur laquelle travailler.
Voilà, exactement, c'est ça. Donc du coup, ben voilà, c'était nos trois cornerbacks du tiers 2. Ned Wiggins, qui est quand même limite tiers 1, mais un tout petit peu en dessous. Mais sinon, bon, voilà, c'est pour faire des tiers, hein, on chipote un peu. Donc il y avait Ned Wiggins de Clemson et Nisra Kestro de Missouri. Et puis donc, Kool-Aid McKinstry, mais quel surnom il a celui-là, qui nous vient de Alabama. On va passer au tiers 3. On a mis également 3 joueurs. Eh ben voilà, 3 joueurs, on y va. Donc on est là un petit peu plus sur du second tour. Mais second tour, ça reste quand même de très très bons joueurs.
Ouais, et puis c'est vraiment parce qu'il y a une classe de corner qui est finalement très très bonne. Hein. Si on arrive au tiers 3 et qu'on parle encore de second tour, ça place quand même les joueurs dont on parle, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. On n'est pas sur la classe de Titan, par exemple, ou au tiers 3, on est sur du 6e tour. Mais oui, exactement. Ouais. Donc si tu permets, je vais commencer avec un joueur que j'aime bien, il s'appelle Kamari Lassiter, il nous vient de Georgia. Pourquoi je l'aime bien? Parce que je trouve que c'est un cornerback intelligent, c'est-à-dire dans son placement du corps, dans sa reconnaissance des jeux appelés, etc. Je trouve que c'est un cornerback qui est souvent très bien placé. C'est pas le plus imposant, mais alors qu'est-ce qu'il joue physique? Voilà, c'est ça aussi qui m'a toujours plu avec lui depuis 2 saisons que je le vois évoluer. Alors, toute proportion gardée, de temps en temps, il me faisait penser un petit peu à Devon Witherspoon, qui a été drafté par Seattle l'année dernière. Pour ce côté-là, le côté, c'est pas le plus imposant, mais alors, qu'est-ce qu'il y va? Il n'y a pas de problème, il y va. C'est un joueur intelligent, je l'ai dit, il peut jouer en zone, il peut jouer en man. Alors, c'est pas le plus rapide, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon au duel? Ce qui pose peut-être un petit peu souci à Georgia, ben, c'est un petit peu la faible production. Voilà, c'est pas quand on regarde la stat sheet, le bot score, les statistiques, mais quand même, aucune interception sur 2 saisons comme titulaire, ben ça fait un petit peu tâche, même si Georgia, il y a d'autres joueurs qui font des interceptions et il était visé relativement peu. Je veux dire, on a vu en 2023, il était visé par les quarterbacks adverses que 40 fois. Donc, vu qu'il était créé, on jouait peu vers lui. Donc, forcément, tu as moins d'occasion de faire des interceptions. Mais tout de même, c'est quelque chose à travailler. Ça, en effet, on te le demandera. D'abord, d'empêcher la réception, évidemment. Mais aussi, de pouvoir être, comme tu disais, un playmaker. Quelqu'un qui fait des différences et faire la différence pour un cornerback. Ben, c'est intercepter le ballon. Et ça lui manque un petit peu. Et il manque un petit peu de cette vitesse. Lui aussi, c'est pas le plus rapide. Mais par contre, Si tu le mets en couverture homme à homme, il va donner tout son corps dedans, il va vraiment y aller. Et en plus, c'est un joueur plutôt intelligent. Moi, je l'aime bien, ce Kamari Lassiter.
Ouais, je l'aime bien aussi, avec quelques limites, mais alors, je me permets, tu l'as dit deux fois, mais il faut insister là-dessus, je vais le dire une troisième fois, c'est vraiment un joueur extrêmement intelligent. Vraiment, vraiment intelligent. Il ressemble finalement à beaucoup de joueurs de Georgia qu'on a vu sortir ces dernières années, notamment du côté défensif. C'est un mec qui joue avec son cerveau, il est discipliné, il a un ADN de vainqueur, c'était un des leaders de cette défense. C'est presque déjà une mentalité de pro, quoi. Au niveau de ce qu'il a entre les deux oreilles, aucune question à se poser. Il va arriver en NFL, il fera aucun problème dans le vestiaire. Sur le terrain, on va lui donner un plan de jeu, il va le respecter à la lettre. C'est très propre au niveau intelligence de jeu. Il a un QI football là aussi qui est très élevé. Et ça lui permet de compenser un peu son déficit physique. Parce qu'il est parfois un peu en retard. Enfin, il devrait être parfois un peu en retard. Mais grâce à son intelligence de jeu, il arrive à se positionner de manière correcte. Et justement, ne pas pâtir de ce déficit de taille, ce déficit de puissance. Tu parlais de la vitesse. Il y a eu son pro day il y a quelques jours. Il y a eu des sources un peu divergentes. Certains disent qu'il a couru un 4-6 sur le 40 yards, d'autres un 4-5. Évidemment, ce n'est pas une vitesse incroyable, c'est même un peu déficient. Mais malgré ça, quand tu le vois jouer, et c'est le plus important, il arrive toujours à compenser. Alors déjà, parce que malgré ce manque de vitesse de pointe, sur les petites distances, il arrive à accélérer très vite. Il a une bonne explosivité, ce qui fait que déjà, il n'arrive pas à se faire déborder sur les 10-20 yards. Et on ne va pas se mentir, la plupart des jeux en NFL, ça se joue sur 10-20 yards, pas souvent sur 40, contrairement à beaucoup d'attaques à l'université. Et puis voilà, quoi, il a toujours des mains aussi très bien placées au point de réception, ce qui est encore une fois étonnant quand on considère son manque de vitesse, son manque de puissance et son manque de taille, c'est-à-dire qu'il joue vraiment avec son cerveau. Alors évidemment, tu ne peux pas être une star en NFL juste avec ton cerveau, juste avec la compréhension du jeu, parce qu'il y a plein de très bons entraîneurs qui eux aussi ont été joueurs et pas forcément de très bons joueurs, parce que malgré leur compréhension du jeu, il manquait un peu de physique. Ça va être le point d'interrogation. Moi, je suis très curieux de le voir en NFL. Vraiment, je suis très très curieux parce que c'est vraiment un joueur à l'ancienne, qui se repose sur sa tête plus que sur ses qualités athlétiques. Ça tranche un peu de beaucoup de profils qu'on voit arriver en NFL ces dernières années. Mais je sais pas trop exactement comment me placer, comment le jauger ce mec-là. Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup. Moi, je l'aimais beaucoup au niveau universitaire. J'ai un gros point d'interrogation au niveau NFL. Je suis curieux de le voir.
Oui, mais il est intelligent, c'est un très bon joueur. Après, voilà, quand on parle de qualité athlétique moindre, c'est parce qu'on a des phénomènes avant lui, voilà, qui ont des qualités athlétiques incroyables. Mais il a quand même suffisamment de qualités athlétiques pour jouer, même en NFL. Donc, moi, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Alors, je pense pas qu'il peut devenir une star au poste de cornerback, alors que Quinion Mitchell ou Tarion Arnold ou Cooper DeJean, même Wiggins pourraient le devenir. On ne sait pas, mais ils peuvent. Lui, peut-être qu'il peut un petit peu moins, mais devenir un titulaire en NFL, ouais, moi ça, j'ai aucun doute à ce niveau-là, parce que c'est un très très bon joueur. On va parler d'un autre joueur qui est très intriguant, lui aussi. Et lui aussi, c'est a priori qu'un second tour. Mais alors attention, moi j'aime bien notamment son côté physique. Il s'appelle TJ Tampa et il nous vient de Iowa State.
Ouais, et t'as très bien amorcé son profil, sa présentation, parce qu'il n'a pas du tout le morphotype d'un corner. Il fait 1m88 comme Nate Wiggins, mais à la différence de Nate Wiggins, lui, il est extrêmement costaud. Il fait plus de 90 kilos. Alors, quand on le voit comme ça, on se dit qu'a priori, qu'est-ce qu'il fait au poste de cornerback? Mais il est finalement adapté à la NFL moderne avec tous les grands receveurs que l'on connaît, les AJ Brown, les DK Metcalf, les Mike Williams, même Marvin Harrison Jr. qui va arriver cette année. Il a un profil physique qui est finalement similaire à ces joueurs-là. Il a de très longs bras, une excellente capacité dans les airs à sauter, à contester les ballons. Et j'ai presque envie de dire que c'est ce qu'on demande le plus aujourd'hui en 2024 à des cornerbacks. Il est assez polyvalent aussi malgré son physique. Alors en presse et sur les tracés verticaux, il n'y a pas de souci, il est excellent. Mais on l'a vu aussi quelques fois en zone et dans le slot où c'était pas trop mal finalement. Alors c'était pas exceptionnel, mais il se débrouillait pas mal malgré son gabarit qui est très très imposant. Je pense pas qu'on lui demandera ça en NFL, où on a tendance vraiment à spécialiser les profils de joueurs. Si tu es bon dans un domaine, on ne va pas te demander de faire quelque chose que tu maîtrises un petit peu moins. Surtout que ce n'est pas un excellent plaqueur. Il a une technique qui est pour moi un peu défaillante. À mon avis, ça peut se corriger. Si ça ne se corrige pas, s'il n'arrive pas à s'améliorer sur le plaquage, ça va poser quelques difficultés au plus haut niveau. Mais voilà, en tout cas, il a des qualités évidentes, notamment pour aider sur le jeu de course. Et il a également des défauts, les défauts de ses qualités, hein, comme il est grand et qu'il est costaud. Si on lui met un receveur un peu plus petit, un peu plus vif dans les pattes, là, ça va être plus difficile à suivre. On parle souvent de profil unidimensionnel pour les receveurs. C'est presque un profil unidimensionnel là pour un cornerback, quoi. Il a un style de jeu agressif, pas forcément dans le côté physique, même si de ce côté-là aussi, mais dans les paris qu'il prend. C'est-à-dire qu'il veut souvent faire beaucoup de jeux, souvent aller attraper le ballon, faire le gros bloc, la grosse interception. Et ça, si tu te trompes, notamment à NFL, ça ne pardonnera pas, ça fera un gros jeu derrière. Et ton entraîneur, il aura vite fait de t'appeler pour que tu le rejoignes sur le banc. Donc attention sur ce point de vue-là. Mais en dehors de ça, son profil est très adapté pour la NFL en 2024. Il est très bon dans un domaine particulier. Et si on le focalise là-dessus, moi, il n'y a aucun doute qu'il aura sa place dans un effectif dans la Ligue et au plus haut niveau.
Ouais, moi j'aimais bien le voir jouer parce que il met des boîtes. Voilà, ça nous fait plaisir quand même de voir ça aussi, quoi. Je veux dire, on regarde ce sport parce que c'est technique, c'est tactique, c'est stratégique, c'est pas que pour le physique, mais quand même ça nous fait plaisir. Et il met des boîtes à ses receveurs, voilà. Le ballon est en l'air et puis le receveur va l'attraper, il va avoir réception, et ben non, bah, il arrive et puis il explose tout le monde et puis voilà. Donc oui, il joue bien avec son physique. Après, pourquoi on en parle dans un tiers 3? C'est, ben, comme tu l'as dit, il n'a pas, lui, le prototype du cornerback très fluide, le backpedal, hop, il se retourne et tout. Non, là, il manque un petit peu. On va pas dire que ça grince au niveau des hanches, il ne faut pas abuser non plus. Hein, mais voilà, c'est pas le plus fluide de mouvement, mais c'est un joueur solide, correct. Moi, je pense que déjà, cornerback numéro 3, il n'y a pas de souci. Puis, oui, forcément, tu l'aligneras quand tu as des match-up face à des Michael Pittman, des Mike Evans, des joueurs un peu grands physiques. Eh ben, tu mets un TJ Tampa dessus. Et là, ça peut faire l'affaire. Et je parle de très bons receveurs. Je ne dis pas qu'il va les annihiler, évidemment. Mais tu le mets plutôt sur ce type-là de receveur que sur des petits rapides, évidemment. Mais moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualité. Et c'est vrai qu'il a des très longs bras. Après, ouais, la technique de plaquage. Mais ça, malheureusement, on le voit beaucoup chez beaucoup de joueurs. Et lui, je pense que c'est encore un peu plus magnifié par le fait qu'il a un gros physique. Donc du coup, j'en parlais, il aime mettre des boîtes. Mais donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? La plupart du temps, il va engager tout son corps avec l'épaule plutôt que de enrouler ses bras autour de l'opposant, de l'adversaire. Et ça, c'est un problème technique, mais ça va se travailler en NFL, il va progresser à ce niveau-là. TJ Tampa, c'est un joueur quand même très intéressant. On va vous parler pour terminer maintenant d'un troisième joueur qu'on a mis là aussi dans le tier 3. Et lui, c'est un profil totalement opposé à TJ Tampa. Voilà, déjà, c'est pas du tout le même gabarit. Il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus léger. Il s'appelle Mike Senristil et il nous vient de Michigan. Alors Mike Senristil, cette année, donc, il a été champion avec Michigan et il y a beaucoup contribué. Il a notamment signé 6 interceptions. Alors, c'est pas étonnant qu'il fasse des interceptions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un receveur de formation. D'ailleurs, il a été recruté à Michigan comme receveur. Et ses 3 premières saisons à Michigan, il a joué receveur. Alors, ok, c'était un receveur un peu plus dans la rotation. Je vais vous donner un exemple. Sa 3e saison, il signe 312 yards et 2 touchdowns. Voilà, c'est ce type-là de receveur qui était receveur numéro 3, numéro 4, mais receveur. Et puis, parce qu'il y a eu des départs à la draft, notamment Daxton Hill cette année-là, et lui, il était volontaire, il avait déjà joué défensive back au lycée. On lui a demandé, écoute, tu veux pas essayer de changer côté du ballon lors des camps d'entraînement, on va voir ce que ça donne. Et puis, ça a très bien marché. Ça a très bien marché parce qu'il a beaucoup de vivacité, parce qu'il a l'intelligence de jeu. C'était un receveur. Donc forcément, il comprend tout ce qui est tracé de receveur, il comprend tout ce qui est trajectoire de passe. Et du coup, il arrive à marquer les receveurs et il arrive à faire des interceptions. C'est un cornerback qui est très intéressant. Depuis tout à l'heure, on vous a surtout parlé de cornerback qui va être choisi très haut et donc du coup, c'est pour être cornerback extérieur la plupart du temps. Lui, franchement, ça va être un nickel cornerback à l'intérieur. Mais on le voit, tous les dimanches, à NFL, c'est important. Les quarterbacks, ils se servent de l'intérieur du terrain avec leur tight end, avec leur slot receiver, comme on dit, c'est-à-dire ces petits receveurs un peu rapides, vifs, qui vont gagner des yards à l'intérieur du terrain. Et il faut des cornerbacks pour les marquer. Des joueurs comme Kenny Moore, des Colts, voilà, très bon joueur. Mike Hilton, très bon joueur. Eh bien, Mike Sandristil, très bon joueur. Ça sera un nickel cornerback, mais un très bon. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler.
Ouais, bah, je t'ai dressé un profil très complet. Il n'y a absolument rien à redire. Pour ne pas trop répéter ce que tu as dit, je vais juste ajouter un point sur la mentalité du joueur qu'il est, quoi. C'est un mec, tu le vois jouer, c'est un chien enragé, quoi. Il ne lâche absolument rien. C'est vraiment une boule d'énergie qui parfois lui porte un peu préjudice, en ce sens qu'il se met un peu hors de position, en se reposant un peu sur ses qualités athlétiques pour faire des jeux. Et des fois, voilà, en fait, c'est une agressivité à l'envers. Il se dit, je suis tellement rapide, je suis tellement explosif que je peux me relâcher un petit peu au niveau du positionnement, au niveau des angles de plaquage. C'est vraiment le seul petit défaut, parce qu'en dehors de ça, c'est le nickel corner parfait pour la NFL. Mais vraiment, il a toutes les qualités et justement, il a tous les défauts. Enfin, tous les défauts, en tout cas, il n'a pas les qualités requises pour jouer à l'extérieur. Il est trop petit, il est trop frêle, il manque de puissance, il n'a pas le gabarit pour. En fait, il est assez unidimensionnel, mais dans l'exact opposé de TJ Tampa dont on vient de parler. Mais sans que ce soit forcément un défaut. Parce que tu l'as très bien dit, un nickel cornerback, toutes les équipes en ont besoin. Et dans cette QV, je ne vois pas qui est meilleur que lui. Alors peut-être les tout meilleurs profils, Mitchell et Arnold, qui eux pourront dépanner ici et là dans le slot. Mais pour être un spécialiste du poste, Sandristil, pour moi, c'est le meilleur. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il va être sélectionné assez haut, malgré ses défauts qui font qu'il ne pourra pas être aligné sur l'extérieur et qu'il ne le sera absolument jamais, sauf s'il tombe sur un coaching staff qui fait pas le job. Mais un coaching staff, intelligent va l'aligner dans le slot en nickel. C'est le prototype parfait. Il a toutes les qualités. Il est explosif. Il est très intelligent, comme tu l'as dit. Il arrive à anticiper les tracés. Il comprend très bien le jeu. Et puis, ses interceptions l'attestent. Il arrive à jouer sur le ballon. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment un profil très, très intéressant que j'ai hâte de voir jouer en NFL. Et je pense qu'il a totalement sa place.
Ben voilà, donc on vous a parlé d'une QV qui est quand même très intéressante. Je vous rappelle, on vous a parlé de 9 joueurs, de Quinion Mitchell de Toledo, Terrion Arnold et Khaled McKinstry d'Alabama, Cooper DeJean d'Iowa, Nate Wiggins de Clemson, Ennis Rakestro de Missouri, Kamari Lassiter de Georgia, TJ Tampa, qui habitera la Tampa Bay, hein, sait-on jamais, de Iowa State, Mike Sandristil de Michigan, donc 9 très bons cornerbacks, c'est vraiment une très belle cuvée. On aurait pu parler d'autres joueurs comme Max Melton de Rutgers, que moi j'aime bien, Cam Hart aussi de Notre-Dame, il y a encore d'autres profils, DJ James, et puis aussi du côté de Florida State, les Jaron Jones, etc., etc. Donc une très belle cuvée à une position très importante, les cornerbacks, ça va partir à la draft et ça va partir très haut. Ben écoute, merci beaucoup, Tonio.
Ouais, ben merci à toi. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un podcast qui aurait pu durer 2 heures, quoi. On aurait pu faire une quinzaine de profils. Mais non, mais on a déjà été complet sur ces 9-là et c'était top. Merci à toi.
Eh ben écoutez, on vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Il nous reste encore 2 positions à balayer, la position de running back et de safety. Ben écoutez, on va faire ça la semaine prochaine et puis la semaine suivante. Ensuite, vous en avez l'habitude, on l'avait déjà fait l'année dernière, l'année d'avant. C'est les petites pastilles, voilà. On vous prendra à chaque fois 4 équipes, on vous fera des petites mock drafts pour ces 4 équipes. Et donc les pastilles juste avant la draft, ça va être très sympa aussi. Allez, bonne journée tout le monde. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by ACAST and available to all audio platforms.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.